France Info.
Bonjour Bernard Minier.
Bonjour.
Au départ, vous étiez dans l'administration des douanes. Vous étiez contrôleur principal et puis l'écriture, votre plus fidèle passion depuis votre plus tendre enfance, a repris le dessus avec tout d'abord des concours de nouvelles et puis la remise de votre premier manuscrit à des éditeurs. Votre premier ouvrage, Glacé, est sorti en 2011, vous offrant un succès immédiat auprès du public et de la presse et même de la télévision avec une adaptation sur M6 et qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Netflix. En 2019, le Sunday Times l'a classé dans le top 100 des meilleurs romans policiers depuis 1940. Propulsant votre personnage principal, Martin Servaz, au rang de héros. Aujourd'hui, publié les Effacés chez XO Éditions. L'héroïne s'appelle Lucia Guerrero, elle est de retour, donc, avec un tête-à-tête parfois effroyable, avec deux assassins d'une violence qui fait froid dans le dos. Le premier tue des femmes qui se lèvent très tôt. Elles se lèvent pour travailler, ces femmes. Elles ont été d'abord kidnappées, puis tuées. L'autre massacre des hommes très riches, avec toujours le même mode de fonctionnement, et surtout cet écriteau qui apparaît à la fin, cette inscription « Tuons les riches ». C'est haletant, parfois vertigineux. Rassurez-moi, tout est vraiment imaginaire, Bernard Minier.
Oui. En même temps, moi, je pars toujours de la réalité. Hein. La pure imagination, ça n'existe pas. Donc, c'est imaginaire, mais il y a quand même une part de réel dans ce que je décris. Il y a quelquefois des coïncidences étranges entre la fiction et la réalité. Je sais que peu de temps après avoir écrit Les Effacés, puisque la première victime parmi les, entre guillemets, riches est une femme, trouvée effectivement dans son penthouse en plein centre de Madrid avec ce message « Tuons les riches sur le mur ». Elle est inspirée de plusieurs femmes très très riches en Espagne, parmi les plus grandes fortunes espagnoles. Peu de temps après, on a trouvé une de ces grandes fortunes, elle a été trouvée par ses domestiques morte dans son appartement, alors pas assassinée, mais par ses domestiques, donc un peu comme dans le roman. Donc de temps en temps, la fiction et la réalité se frôlent un peu.
En 13 ans seulement, vous êtes devenu un maître hein, du thriller en France. Mmh. À quel âge ça a commencé
Alors le thriller, ça a commencé assez tard. Mais j'ai beaucoup écrit, j'ai toujours écrit. À l'âge de 10 ans, je crois que j'écrivais déjà des petites histoires de Bob Moran, puisque je lisais Bob Moran comme tous les garçons de mon âge. Et je venais au polar plutôt tard. Moi, j'étais science-fiction, j'étais fantastique, j'étais plein d'autres choses. Et le thriller Glacé, mon premier roman publié en 2011, était plutôt un exercice de style. C'était pas vraiment mon genre de prédilection.
Ça veut dire que vous aviez besoin déjà de vous échapper, de vous évader par le biais de la lecture tout d'abord, j'imagine, et ensuite par le biais de l'écriture.
Je sais pas si c'était vraiment un besoin de s'échapper. C'était un besoin compulsif. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu écrire. Dès que j'ai commencé à lire, j'ai eu envie d'écrire mes propres histoires. Pour moi, les deux sont consubstantiels. Il y a l'écriture et la lecture. Ça va ensemble. Alors, la lecture, oui, c'est une évasion, mais en même temps, je crois que c'était autre chose. Le besoin de raconter des histoires, le besoin de s'immerger dans des univers, mais pas par nécessité d'évasion. C'est dans mes fibres.
Vous semblez d'ailleurs avoir mis du temps à vous faire confiance, avoir eu confiance en votre propre écriture.
C'est vrai.
Et en votre capacité à captiver par vos histoires, parce que vous êtes déjà passé effectivement par les douanes auparavant. Mais en parallèle, il y a toujours eu ce besoin de faire des concours de nouvelles et
j'ai
d'aller
toujours écrit,
un peu plus loin.
Mais bien sûr,
c'est étonnant
oui.
D'ailleurs de ne pas vous être lancé dès le départ dans l'écriture, finalement.
Ben, en effet, parce que je ne me faisais pas forcément confiance, je n'étais pas forcément convaincu que ce que j'écrivais méritait d'être publié. Je voyais aussi pas mal de choses dans les librairies, parce que j'étais quelqu'un qui allait dans les librairies quasiment tous les jours. Je voyais aussi des choses qui, dans les librairies, méritaient pas forcément d'être publiées, ou en tout cas de mon point de vue. Donc, je n'avais pas envie d'ajouter ma pierre à l'édifice. Je trouvais que la montagne était suffisamment... Quand on en parle avec les journalistes spécialisés, les rubriques littéraires, les montagnes de livres, les avalanches de livres qu'ils reçoivent chaque semaine, chaque année, donc j'avais pas envie d'ajouter la mienne à tout ça, enfin mes livres à tout ça, mais finalement ce qui m'a convaincu c'est une rencontre comme toujours, quelqu'un qui m'a convaincu d'aller au bout de l'expérience.
Alors effectivement vous allez prendre la décision après ces concours de nouvelles d'envoyer votre premier manuscrit à des éditeurs, on sent que ça a été une lourde décision pour vous d'assumer ça, de vous dire est-ce que ça va captiver ou pas, est-ce que ça va fonctionner. Effectivement ça a fonctionné avec ce premier roman Glacé qui va connaître un succès retentissant. Comment vous avez vécu ça?
En fait j'ai eu la chance d'avoir un dispositif dans l'administration qui s'appelle disponibilité, c'est-à-dire qu'un congé sans solde, avec la possibilité de revenir, donc un filet de sécurité, ça c'est formidable. C'était pas un gros risque en fait, je me suis mis en disponibilité, j'ai attendu de voir un peu comment ça se passait, ça s'est effectivement passé très bien, très vite. Et donc j'ai été retrouver mon éditeur de l'époque, Bernard Fixot, enfin qui est toujours mon éditeur du reste, et il m'a proposé un nouvel avaloir. Et moi, à chaque fois, je calculais combien de mois de salaire ça représentait. Donc, je prenais les disponibilités en fonction de mon avaloir. C'était assez facile, finalement.
Donc, l'avaloir, c'est ce qu'on donne avant. Hein,
c'est ça, c'est l'avance sur droit d'auteur, qu'on reçoit. Et donc, je ne me posais pas trop de questions. Moi, je pensais qu'à un moment donné, je retournerais dans les douanes, ce qui n'est jamais arrivé. Et j'ai continué à écrire. Mais j'avoue que le succès, sur le moment, m'a pas trop changé. J'ai continué à habiter dans le même petit pavillon que j'avais en tant que douanier. J'ai continué à avoir les mêmes habitudes. La seule différence, c'est que je me levais pas très tôt le matin, moi aussi, pour aller au bureau. Parce qu'il y avait quand même 2 heures de transport par jour hein, pour aller jusqu'au centre de Paris. C'était la seule différence. Après, ma vie a totalement changé, effectivement. J'ai déménagé. J'ai déménagé surtout le jour où un magazine bien connu, People, a écrit que je vivais dans un pavillon sans charme au fond d'une rue qui n'avait de poétique que le nom. La rue s'appelait Joachim Dubélé à l'époque. Ce jour-là, je me suis dit, il faut peut-être changer. Donc j'ai déménagé, j'ai changé de vie. Pas mal de choses ont changé dans ma vie. Mais sur le moment, non. Sur le moment, je ne me posais pas ce genre de questions. Je voulais juste écrire un nouveau roman parce que je ne voulais pas être l'auteur d'un seul roman, finalement, comme ça arrive parfois.
Donc quand vous reverrai-je ce doux paysage, c'est effectivement sans doute les vers de Joachim Dubélé qui vous ont accompagné tout au long de ce parcours. Est-ce que le métier de douanier, justement, n'a pas contribué au point de détail? Parce que quand on est douanier, on voit des choses mais incroyables, inévitablement, puisqu'on contrôle. Est-ce que ça n'a pas nourri l'écriture, tout ce que vous décrivez finalement dans vos romans?
Oui et non. Effectivement, il y a 1000 métiers dans les douanes. On pense toujours au douanier qui est en uniforme à la frontière.
Non, mais vous étiez inspecteur.
Ils disent qu'est-ce que vous avez à déclarer? Moi, j'étais en civil, j'étais pas en uniforme déjà. Et puis, il y a des douaniers spécialisés dans les contrefaçons, dans le trafic de drogue, dans la protection des espèces animales, enfin plein de choses. Donc, il y a plein de métiers. Mais je voulais pas m'inspirer trop de ce que j'avais vécu. J'ai quand même passé 25 ans dans les douanes. C'est long. Moi, j'aime bien regarder devant, pas derrière. Et j'aime bien apprendre aussi. Donc découvrir des choses nouvelles, aller à la rencontre de gens nouveaux. Et ce métier m'ouvre toutes les portes. Donc j'ai voulu profiter de ça. Et en fait, dans mes romans, je parle souvent de choses que je ne connais pas au départ, mais que je découvre. Quand j'ai écrit M. Le Bord de l'Abîme qui parlait d'intelligence artificielle il y a quelques années, alors il y a une intelligence artificielle qui ressemble beaucoup à ChatGPT dedans, mais moi je l'ai écrit il y a pas mal d'années déjà. Je connaissais rien à l'intelligence artificielle, mais j'étais à la rencontre des gens, des spécialistes, J'ai lu tout ce qu'il y avait sur le sujet. Je me suis rendu aussi à Hong Kong parce que ça se passait à Hong Kong. Voilà, j'aime bien découvrir des choses nouvelles et ensuite les partager avec mes lecteurs.
Dans ce thriller, vous en profitez pour, encore une fois, donner une vraie place aux réseaux sociaux, à Internet. Vous avez déjà traité ça auparavant dans vos précédents ouvrages. Ça veut dire que c'est obligatoire aujourd'hui? Ça doit être incorporé au roman, quoi qu'il arrive?
Non, c'est pas obligatoire du tout. Ce qui est obligatoire, c'est...
Ça devient un personnage, hein.
Oui, complètement. Ben, moi, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, les réseaux sociaux.
Sur la confidentialité, sur les identités, sur...
Il y a plein de choses dans...
La protection des données.
Les effacer. Il y a la protection des données. Il faut savoir quand même que, comme l'a écrit Paz Velasco de la Fuente, qui est une criminologue espagnole que je connais, chaque fois qu'une femme se connecte sur Internet, elle devient une cible potentielle. Et ça, c'est d'ailleurs le cas de Lucia dans le roman, qui devient victime de ce qu'on appelle un incel. C'est un acronyme pour involuntary celibate, c'est-à-dire célibataire involontaire. Ce sont des hommes qui ont du mal à avoir des relations sentimentales ou sexuelles avec des femmes et qui donc forment des espèces de communautés en ligne sur des forums, sur 4chan, sur Telegram où ils s'en prennent aux femmes, où ils prônent la misogynie, la haine en ligne, voire la violence. Mais il n'y a pas que les incels, il y a tous les réseaux sociaux, ça encourage, moi je trouve, le morcellement de la société, la fragmentation, l'archipélisation de la société. Et je crois que c'est Étienne Klein qui a dit ça, qu'en quelques clics, on peut se constituer un chez-soi idéologique. Et avec les algorithmes en plus qui encouragent ça, à partir de là, on ne rencontre que des gens qui pensent la même chose que soi, qui partagent les mêmes idées, on reçoit des informations qui nous encouragent dans nos convictions, qui sont parfois des illusions ou des aberrations, et les valeurs de ces communautés, de ces groupes, de ces clans deviennent plus fortes que le contrat social qui nous unit. C'est ce qui s'est passé avec le Capitole aux États-Unis, avec les partisans de Donald Trump. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie, c'est extrêmement dangereux pour nos sociétés qui petit à petit se morcellent, s'archipélisent, où chacun est entre soi. Et donc, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Donc, ça revient assez périodiquement dans mes romans. Il n'y a pas que ça dans Lucia, évidemment, mais il y a aussi ça. En dehors du fait qu'aussi, il y a la cybercriminalité qui est de plus en plus importante. On en voit tous les jours en ce moment. Hein, des hackers, du hacking, il y en a partout. Parce que le cyberespace aussi, en plus, n'exige pas la proximité physique entre la victime et l'agresseur. Et ça, ça donne des possibilités immenses à tous les agresseurs potentiels. Donc ça, oui, c'est des sujets qui m'intéressent. C'est pas obligatoire, mais moi, vraiment, ça me préoccupe. Donc j'aime bien en parler.
Dans ce roman, justement, dans ce thriller, il y a deux tueurs et une femme au milieu. La femme, elle est centrale. C'est rare d'avoir d'ailleurs des femmes qui se retrouvent au milieu de thrillers et qui se retrouvent finalement érigées en tant qu'héroïne. C'était important pour vous, ça, Bernard Minier, de maintenir ça avec Lucia, qui est devenue elle aussi un personnage incontournable de vos romans.
Alors, c'est pas une démarche volontaire, c'est plutôt que, en fait, j'avais quelqu'un, j'ai des personnes autour de moi qui sont des femmes. Mes premières lectrices sont aussi des femmes, avec un sacré caractère, avec de la personnalité. Et je me suis dit, ça ferait un bon modèle pour une héroïne. Ça ferait un bon personnage, en particulier une personne que je connais, qui a les tatouages et les piercings de Lucia, qui est espagnole. Et je me suis dit, tiens, ça ferait un sacré personnage, en plus avec du caractère, avec une forte personnalité.
Détermination aussi.
Quelqu'un qui ne transige pas aussi.
Il n'a pas peur.
Sur la vérité, qui ne transige pas.
Étonnamment,
qui
n'a jamais peur.
Et donc, ça me paraissait un personnage absolument merveilleux à mettre en scène. Et à partir du premier Lucia, je me suis lancé là-dedans en me disant, en plus, c'était une espèce de respiration par rapport à Martin Servaz, parce que tous mes lecteurs et mes lectrices, en général, me parlent de Martin Servaz tout le temps. Ils me demandent s'il sera dans le prochain. Je me disais, je vais quand même leur proposer un peu autre chose.
C'est votre bombe morane à vous.
C'est ça, c'est mon bombe morane à moi. Ah ben, je ne sais pas si j'écrirai autant de romans qu'Henri Verne, mais bon, ou si je vivrai aussi longtemps, je me le souhaite. En plus, c'est un nouveau point de vue, Lucia, par rapport à Martin. Elle est plus jeune, elle est espagnole, c'est une femme. C'est une autre génération d'enquêteurs. Lui, il a des difficultés énormes avec les nouvelles technologies. Donc, c'est un peu moi, quoi. Martin Servaz, Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi, je ne suis pas Martin Servaz. Mais bon, il y a une partie de moi qui l'est, quand même. Lucia, c'est quelqu'un de très différent. Donc, ça me permet de dire des choses différentes, d'avoir un autre point de vue sur la société. Alors, je sais que ça se passe en Espagne, mais la société espagnole ressemble beaucoup à la société française, finalement.
On est très proche. Hein.
Ouais.
Il y a autre chose aussi que je voulais aborder avec vous, c'est le fait qu'on est touché par l'opinion et la morale. Il y a une vraie morale qui revient systématiquement, de quel côté on se positionne. C'est là où les réseaux sociaux d'ailleurs frappent très fort par moment. Certains meurtres, certains assassinats sont justifiés sur les réseaux sociaux avec tuons les riches. Enfin, ça fait froid dans le dos, mais c'est la réalité aujourd'hui.
Il me semble que c'est quelque chose qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Ouais.
Et c'est incroyable ce côté réaliste. Est-ce que ça fait partie de votre qualité d'écriture, ça?
Alors qualité, je ne sais pas, mais moi j'y tiens à ce réalisme. Oui, oui, bien sûr. C'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est m'emparer du réel. Il m'arrive parfois de lire des romans qui, pour moi, sont idéologiques. C'est-à-dire, justement, on fait passer un message. Je fais passer aucun message. En revanche, on est là pour questionner la société, pour poser des questions. Et surtout pour s'emparer du réel, parce que le réel est toujours complexe, il n'est jamais simple.
Et il fait même peur, hein.
Bien sûr. Et ben, évidemment, parce que c'est une réalité assez sombre, celle que je présente. Sinon, j'écrirais autre chose, des feel-good books, je ne sais pas, mais pas des polars. C'est assez noir, oui. Mais il faut s'emparer du réel. Je me rappelle qu'Anna Arendt disait, en parlant de l'idéologie, que l'idéologie ressemble au délire psychotique. Elle ne tient pas compte du réel. Et des fois, je lis des romans qui sont purement idéologiques. Et ça me dérange. Moi, je crois au contraire qu'on doit s'emparer du réel, on doit lui ouvrir le ventre, on doit lui sortir les tripes. Et ça veut dire aussi abandonner ses idées préconçues, ses préjugés, ses stéréotypes, ses présupposés idéologiques aussi. Parce qu'il y a aussi quelque chose dont je parle dans Lucia, dans le premier et dans celui-là, c'est la pensée de groupe. Puisqu'à un moment donné, ce message « tuons les riches » qui se trouve sur les scènes de crime va fuiter et les réseaux sociaux vont s'en emparer. Internet
avec des communautés qui vont se former. Voilà, vraiment, ça fait froid dans le dos.
Et ce genre de choses, ça existe. Or, l'idéologie est une pensée de groupe. Sauf que ce sont les individus et non les groupes qui sont doués de sensibilité. Et l'individu est toujours plus fin quand il est seul que quand il est plongé dans un groupe. Et ça aussi, je voulais en parler.
Est-ce que vous êtes capable, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé, d'aller proposer autre chose que des thrillers?
Ah ben, il se trouve que je suis en train de terminer un recueil de nouvelles, certaines anciennes, d'autres récentes. Et il y a de tout dedans. Il y a non seulement du thriller, mais il y a du fantastique, il y a de la science-fiction. Il y a de la blanche, entre guillemets. Un recueil qui paraîtra sans doute à l'automne. Donc oui, je suis capable de proposer. Moi, je lis beaucoup, beaucoup d'autres choses que du polar ou du thriller. Je lis plein de choses différentes. Quand je sais pas quoi lire, en général, je relis Balzac. En même temps, Balzac, il y a tout dedans. Il y a Une ténébreuse affaire, c'est du policier. Il y a du fantastique, il y a du merveilleux. Il y a presque des thrillers économiques dans Balzac, La Maison de Nucingen ou des choses comme ça, où on a des traders, enfin des comptables indélicats qui ressemblent furieusement à Jérôme Kerviel. Il y a tout dans Balzac. Donc.
Avec toujours des couleurs et effectivement des scènes de vie extraordinaires.
Ah, ben Balzac, c'est pour moi le... Il a fait de la sociologie, il a fait du roman historique, il a fait du roman fantastique, du roman policier, tout ça avant tout le monde.
Il y a un point commun à tout ce que vous écrivez, Bernard Minier, et en tout cas, c'est vraiment le fil rouge, j'ai l'impression, des effacés de votre dernier thriller, c'est le doute. C'est surtout le doute qui envahit Lucia, c'est le doute qui envahit même les tueurs. Il y a le doute de l'entourage, il y a le doute de est-ce qu'on prend un mauvais chemin ou pas. Quelle place occupe le doute chez vous ?
Ah bah en fait, Martin aussi, il doute beaucoup. Hein. Donc ça doit être quelque chose qui m'est peut-être consubstantiel, j'en sais rien. Oui, bah, moi, je pense que le doute est extrêmement important. Si je ne me trompe pas, c'est Camus qui parlait de ça d'ailleurs. Il n'y a rien de plus dangereux que les gens qui sont pleins de certitudes. Or aujourd'hui, on en revient encore aux réseaux sociaux, on a des gens qui sont bardés de certitudes parce qu'il n'y a pas de débat contradictoire, ils ne sont pas confrontés à des thèses différentes des leurs. Le doute, c'est extrêmement important. Je pense qu'il faut sans arrêt s'interroger sur ses convictions, sur ses certitudes. Il y avait un film merveilleux avec David Bowie qui s'appelait Furio, où un des personnages, le capitaine Lawrence, disait « Vous êtes victime d'hommes qui sont persuadés d'avoir raison, comme vous-même, un jour, vous avez été persuadé d'avoir raison. » Et je crois que ça, c'est dangereux d'être bardé de certitudes, d'être persuadé d'avoir raison, parce que ça conduit à tous les extrêmes. On le voit dans beaucoup d'endroits de la planète aujourd'hui.
Avez-vous eu raison de prendre la plume ? C'est une vraie question. Aujourd'hui, après Le Cercle en 2012, il y a eu N'éteins pas la lumière en 2014, Nuit en 2017, La Chasse en 2021, Un œil dans la nuit, je crois qu'il y a Les Sœurs aussi. Vous êtes l'un des auteurs français les plus lus et les plus traduits dans le monde. Ça représente quoi pour vous, Bernard Minier ?
Ah, ça représente des voyages assez sympas. J'étais en janvier en Bulgarie avec mes compères Michel Bussy, Franck Tillet et Jérôme Loubry. J'étais en février en Espagne. J'étais le mois dernier plutôt en Pologne. Moi, j'adore aller à la rencontre de mes lecteurs à l'étranger. En France aussi, hein, je fais beaucoup de salons, je fais beaucoup de librairies. Mais même à l'étranger, c'est fascinant que, par exemple, un personnage comme Martin Servaz, qui est vraiment ancré dans une réalité géographique, qui est le Sud-Ouest, les Pyrénées, Toulouse, qui est un personnage quand même très, très ancré dans cette réalité-là, parle à des lecteurs polonais, parle à des lecteurs sud-américains, parle à des lecteurs de partout, et qu'ils arrivent à s'identifier au personnage, c'est merveilleux. Moi, je suis absolument ravi d'exercer ce métier et d'avoir autant de lecteurs partout et de pouvoir voyager grâce à ce métier. En plus, je vais dans plein d'endroits que j'aurais peut-être pas visité si je l'avais pas fait pour mon métier.
Les Effacés, donc, est sorti. Merci beaucoup, Bernard Minier, d'être passé dans Le Monde d'Élodie sur France Info. Il y a une chose qu'on peut pas effacer, c'est la mémoire qu'on a depuis notre plus tendre enfance. Méfiez-vous.
Ah, quelle jolie conclusion.
Merci beaucoup.
Merci.